Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 12 juillet. La menace orageuse a eu hier une conséquence inédite, la paralysie des trains. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Des centaines d'impacts de foudre ont été comptabilisés dans les monts du Lyonnais. Un front orageux également a traversé la métropole de Lyon cette nuit sans occasionner d'importants dégâts. Les épisodes orageux de plus en plus nombreux et aussi de plus en plus violents. Pour autant, les quantités d'eau très importantes qui s'abattent ne profitent pas forcément à la végétation et au sol. Le groupe Sapiens dans la Drôme a mis au point un dispositif LV Green, une cuve qui permet le stockage de l'eau et qui facilite ensuite l'évapotranspiration des arbres. Explication avec Samuel Périssou, directeur des opérations du groupe Sapiens dans cette édition. Les policiers municipaux de Vénissieux pourraient lancer demain une grève reconductible pour réclamer des armes de catégorie B, autrement dit des revolvers, pistolets et autres carabines. Une cinquantaine de mineurs isolés en recours ont manifesté hier devant la métropole de Lyon. La mairie annonce que le feu d'artifice sera tiré le 14 juillet, vendredi soir, sur la colline de Fourvière. Un feu d'artifice qui se veut joyeux mais aussi éco-responsable. Et puis une nouvelle joueuse, plutôt une nouvelle gardienne à l'Olympique lyonnais féminin.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La menace orageuse a eu hier une conséquence fâcheuse et inédite. La SNCF a pris la décision d'interrompre la circulation ferroviaire sur la plupart des axes du département dès 14h30. Conséquence, une véritable pagaille dans les gares, à commencer par la Part-Dieu, où régnait une chaleur étouffante. Une gare bondée vers 18h. En revanche, aucun mouvement d'humeur à l'encontre des équipes de la SNCF. La décision d'interrompre la quasi-totalité du trafic a été prise pour assurer la sécurité des voyageurs et ne pas risquer qu'ils finissent coincés sur les voies sans climatisation, sans accès à l'eau ou à la nourriture, a expliqué la SNCF. La pagaille a duré en tout cas jusque tard dans la soirée. La SNCF n'a pris aucun risque avant de remettre en circulation les axes à partir de 19h. Elle a procédé en effet à un trajet de reconnaissance sur chaque ligne pour s'assurer qu'aucun arbre ou aucun obstacle n'encombrait les voies. Des centaines d'impacts de foudre ont été comptabilisés dans les monts du Lyonnais. Un premier front orageux s'est formé entre Mâcon et Amplepuis. De fortes précipitations ont été relevés, des trombes d'eau et de grêle sur la 6 à Villefranche. Une seconde vague orageuse est venue frapper la métropole de Lyon dans la nuit entre 3h et 5h du matin, mais l'orage n'a pas été aussi violent qu'attendu. Météo France avait prédit des orages extrêmes avec des rafales supérieures à 150 km/h localement, ainsi que de très gros grêlons, parfois plus de 10 cm de diamètre et un risque de tornade.
Lyon demain, le média influenceur d'avenir.
Les épisodes orageux sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents, raison du règlement climatique. Des quantités d'eau très importantes s'abattent sur les territoires à certains moments. Pour autant, leur effet est moindre compte tenu de la sécheresse dans les villes en particulier où tout est construit pour évacuer l'eau le plus vite possible vers les systèmes d'assainissement. Pour autant, il existe des solutions. Pour preuve, le groupe Sapiens dans la Drôme a mis au point le dispositif LV Green, une solution de stockage de l'eau qui facilite l'évapotranspiration des arbres et contribue au rafraîchissement en milieu urbain. Nous avons rencontré Samuel Périssou, directeur des opérations du groupe Sapiens.
Le LV Green est un concept qu'on a breveté, qui a pour vocation d'adresser les sujets d'îlots de chaleur. En ville, aujourd'hui, on a effectivement de grosses capacités thermiques dans les rues, et pour effectivement abaisser ces niveaux de température, effectivement, on met en place des îlots de fraîcheur, donc qui fonctionnent sur le principe d'évapotranspiration. Les îlots de fraîcheur, c'est de la végétation. Végétation, donc très bien, maintenant il faut pouvoir l'entretenir, et on est aussi dans un contexte de pénurie d'eau, avec des quantités faibles pendant la durée de l'année, mais avec de gros épisodes. Et donc, dans nos expériences du groupe, on a à la fois des solutions de stockage d'eau et des solutions de drainage d'eau. Et donc, on a réfléchi à une solution qui permettrait d'entretenir et de favoriser le développement de ces îlots de fraîcheur. Et donc, on a mis au point ce système LV Green, qui est un système de drainage de l'eau qui va venir, l'eau de pluie qui va venir arroser un dispositif végétal. On va capter cette eau de pluie, alors souvent sur des épisodes de plus en plus intenses et courts. On va capter cette eau de pluie qui n'est pas consommée par la végétation, puisque la végétation ne consomme qu'une faible part de l'eau de pluie qui tombe au moment de l'épisode. On va capter cette eau pour l'acheminer vers une cuve. Cette cuve est compartimentée. On a un premier compartiment qui est un compartiment de stockage qui va permettre de retenir une quantité d'eau dans un premier temps pour la réutiliser et au niveau de l'espace vert. Donc on a mis au point des dispositifs à la fois de capillarité et de pompe basse énergie pour remonter cette eau vers le système racinaire, toujours dans un souci de consommation carbone limitée. Donc ce premier compartiment a une surverse. Lorsqu'il est effectivement rempli, la surverse va partir vers le deuxième compartiment, un compartiment qui est aéré, troué vers le fond et qui va permettre d'évacuer, d'infiltrer l'eau pour permettre un retour de l'eau, l'excédent vers la nappe, vers la nappe phréatique. Et enfin, si ce compartiment est saturé, on fait une évacuation vers le réseau. Donc le dispositif, il a finalement trois actions. Une première qui est la capacité de drainage et de récupération, de réutilisation des eaux de pluie pour entretenir les espaces verts. Une capacité de réinfiltration de l'eau vers la nappe, retour au sol. Et puis, régulation vers le réseau. Et donc de permettre effectivement une meilleure gestion de notre eau pluviale pour des économies et pouvoir surtout faire proliférer, permettre le développement de ces îlots de fraîcheur.
Quelles sont les applications et quels sont vos clients potentiels ?
Les collectivités, pour le coup, parce qu'effectivement, comme je le disais, ces îlots de fraîcheur se développent de plus en plus dans les centres urbains. On a également des programmes immobiliers qui sont intéressés pour mettre en commun les eaux captées sur les espaces verts d'un ensemble pour les réutiliser dans la gestion de l'eau. Et ça peut être aussi, on a des exemples dernièrement, un groupe scolaire avec des grandes surfaces perméables, avec la volonté de réutiliser les eaux d'infiltration dans la surface perméable pour arroser, entretenir des espaces verts dans le groupe scolaire. Donc les applications sont multiples et on s'adapte au fur et à mesure aux besoins de nos clients, sachant qu'on a la capacité on construit nous-mêmes, donc notre usine est basée dans la Drôme, on construit nous-mêmes nos systèmes drainants et ensuite sur les cuves de stockage, on a nos systèmes d'ingénierie qui nous permet de dimensionner en fonction des besoins du client.
La grande tendance, c'est de désimperméabiliser les sols. Ça veut dire aussi qu'avec l'eau, il y a des polluants potentiellement qui peuvent passer. Vous avez des solutions, je crois.
Oui, alors effectivement, on a également travaillé sur cette problématique parce qu'effectivement, on perméabilise aujourd'hui énormément les surfaces pour un retour de l'eau dans les meilleures conditions vers le sol et vers la nappe. Le risque que l'on a lorsque l'on réinfiltre sur des surfaces perméables, c'est également emporter dans l'infiltration des polluants, des hydrocarbures, des métaux lourds par exemple. Et nous, fabricants de géotextiles, on s'est dit, on a un support. Si on travaillait sur la fonctionnalisation de ce support pour lui permettre de dépolluer ses eaux d'infiltration et donc d'apporter une solution préventive à l'infiltration, au risque de pollution par infiltration des eaux. Et donc on a mis au point avec un partenaire un dispositif qui est un géotextile dépolluant. Ce géotextile permet a pour objectif d'ensérer, d'ensemencer des capsules de champignons d'une part et de principe actif chélatant d'autre part et de nutriments pour effectivement dépolluer cette eau au fur et à mesure de l'infiltration dans le géotextile. Donc ce géotextile dépolluant est un géotextile triple action. Une première action qui est la dégradation des hydrocarbures à partir des capsules fongiques qui ont été spécialement sélectionnées pour adresser ces pollutions hydrocarbures. Une dépollution des métaux lourds par captation avec des microcapsules chélatantes et donc qui permettent de retenir et minéraliser le métal lourd dans le géotextile et un apport de nutriments pour favoriser la biorémédiation et la rendre plus efficace dans le dispositif.
Samuel Périssou, directeur des opérations du groupe Sapiens, spécialiste en solutions innovantes et environnementales dans le domaine de la construction. Le groupe Sapiens commercialise le LV Green auprès des entreprises, municipalités, promoteurs immobiliers et agriculteurs. Pour se renseigner, groupe-sapiens.com. Les policiers municipaux de Vénissieux, ils sont 34, pourraient lancer demain, jeudi, une grève reconductible pour réclamer des armes de catégorie B, revolvers, pistolets ou carabines. C'est à la police nationale d'assurer l'ordre public. La municipale assure des missions complémentaires, explique Michel Picard. La maire communiste de Vénissieux veut éviter une escalade. Elle rappelle que sa police municipale est déjà équipée de lanceurs de balles de défense, de pistolets à impulsion électrique, de bombes lacrymogènes, mais aussi de matraques télescopiques, casques ou encore gilets pare-balles. Je ne crois pas que l'arme létale soit une protection supplémentaire, affirme Michel Picard dans les colonnes du Progrès. Une cinquantaine de mineurs isolés en recours ont manifesté hier devant la métropole de Lyon pour demander une solution d'accueil digne de ce nom. 200 jeunes originaires de Guinée, du Mali ou de Côte d'Ivoire sont contraints de dormir sous des tentes et dans des squats sur le périmètre de la métropole. Tous attendent une audience devant le juge des enfants pour faire reconnaître leur minorité. Une attente qui est comprise entre 6 et 12 mois. La métropole de Lyon a ouvert 100 places à la station, un dispositif mis en place en 2020 et géré par l'association LOMA dans le 3e arrondissement, mais c'est insuffisant. Il faut rappeler qu'au final, 80% des jeunes en recours sont reconnus mineurs devant les juges. Une nouvelle manifestation est prévue ce mercredi devant l'hôtel de ville de Lyon, place de la Comédie. La mairie de Lyon annonce que le feu d'artifice sera tiré le 14 juillet, donc vendredi soir, depuis la colline de Fourvière, à partir de 22h30, pour une durée de 20 minutes. La ville a choisi des fusées emballées dans du carton dégradable et non plus dans du plastique. Le bilan carbone de la prestation est égal à zéro grâce à une compensation intégrale réalisée par la plantation d'arbres, précise la ville. Mais au-delà du côté environnemental, la ville de Lyon promet aussi de puissantes salves de lumière, de détonation, de la joie, un spectacle pyrotechnique symbolique baptisé Allegria. Les quais de Saône, les berges du Rhône ou encore le pont Maréchal Juin sont comme d'habitude les endroits les mieux placés pour contempler le spectacle. Sur la colline de Fourvière, il y aura des restrictions de circulation. Circulation automobile interdite de 19h à minuit 30. Accès piéton interdit également de 21h à 23h30, le temps de démarrer le feu d'artifice. La gardienne internationale allemande Laura Benkart, 30 ans, s'est engagée pour les deux prochaines saisons à l'OL féminin après avoir évolué à Fribourg, sa ville natale, et au Bayern de Munich. Elle quitte le club de la Bavière après 5 saisons et 147 matchs et 2 titres de championne d'Allemagne en 2021 et 2023. Avec son pays, elle a aussi remporté le championnat d'Europe 2013 et les Jeux Olympiques 2016. Benkart évoluera aux côtés de l'internationale chilienne Christiane Endler et de l'internationale U19 française Férine Belhadj. Notez que Simon Pouplein est le nouvel entraîneur des gardiennes de l'Olympique Lyonnais. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.